Radio Barque, numéro 7, troisième partie, donc consacrée à notre invité du jour, Édouard Rocher. On vous a entendu tout à l'heure succinctement. Je rappelle que vous êtes maire de Coursan, vice-président aujourd'hui de l'Aglo et un des responsables départementaux du PRG, le Parti des radicaux de gauche. Alors Édouard Rocher, si je puis dire, vous êtes entré de plein pied dans la cour des grands de la vie politique narbonnaise il y a un an et demi. En battant, alors, surprise, chacun, ou pas surprise, chacun l'interprétera à sa façon, mais en tout cas, en battant le maire de Coursan, Gilbert Plat, qui était là depuis des lustres, voire des décennies, donc pour certains, c'était la surprise.
Oui, une figure, hein, narbonnaise. Hein.
Voilà, quand même, une figure narbonnaise. Maintenant, vous étiez déjà quand même au conseil municipal depuis quelques années, donc vous aviez déjà un regard sur la vie coursanaise, Édouard Rocher.
Tout à fait. J'étais conseiller municipal avec Gilbert Plat, et puis à un moment, il s'agit tout simplement de décider si je voulais porter une parole différente sur la commune et proposer autre chose, et ce qui a été fait avec tout simplement une équipe que j'ai constituée et que j'ai eu le plaisir de mener à la victoire, effectivement, sur le territoire narbonnais. Ça a été un séisme, une surprise pour certains.
Pas pour d'autres, peut-être.
Pas pour d'autres, puisque quand on est sur le terrain.
Vous ressentiez le terrain.
Tout à fait. Nous, on a fait une grosse campagne pendant 6 mois où on a été sur le terrain pour relever à la fois les besoins, les envies des différents, des coursanais, des associations. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait une envie de renouveau et qu'on était, on avait la possibilité de proposer un programme de qualité et de remporter l'adhésion. Donc voilà.
C'était pas une liste PRG.
Ah non, pas du tout. C'est une liste très ouverte. Il y a à l'intérieur des socialistes, il y a des gens du PRG, il y a des gens sans étiquette, il y a des gens qui ont plutôt une sensibilité de centre-droit. Voilà. Après, je considère que pour gérer une commune, il ne faut pas faire d'ostracisme et que, justement, être le plus ouvert possible pour tout simplement à la fois remporter l'adhésion, mais surtout avoir une vue la plus large possible et répondre avant tout aux besoins. Le reste, la politique, ça se fait peut-être dans d'autres lieux.
Alors, quand on est maire d'une ville comme Coursan, qui est ce qu'on appelait jadis ou peut-être encore les cités dortoirs par rapport à Narbonne, c'est une grande commune, mais ça reste quand même dépendant d'une ville-centre. Quels sont les créneaux spécifiques sur lesquels un maire s'appuie ?
Alors, vous l'avez évoqué, effectivement, une ville dortoir, et c'est péjoratif, mais en même temps...
Mais il y a une part de réalité.
Il y a une part de réalité. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on a réussi à gagner ces élections, tout simplement parce qu'on a proposé autre chose. Notre volonté, c'est de revenir aussi à ce qu'on appelle la vie de village. Alors, la vie de village pour une commune de 6500 habitants, qui est la deuxième commune après Narbonne sur le Grand Narbonne, donc qui est très importante. Mais cette volonté de revenir sur cette convivialité, sur des festivités, sur le plaisir de se retrouver ensemble, d'avoir des projets communs, et pas uniquement de dire j'habite à Coursan parce que c'est pratique, parce que c'est ce qui était aussi dit, dire j'habite à Coursan parce que c'est pratique. Moi, je veux qu'on dise j'habite à Coursan parce que c'est beau, parce que c'est dynamique.
Parce que c'est Coursan.
Parce que c'est Coursan, voilà.
C'est-à-dire qu'il y a une volonté à un moment de s'émanciper un peu par rapport à la ville-centre, comme l'on dit aujourd'hui.
De s'émanciper, non. Parce qu'il y a une culture coursanaise, et donc ça, il n'y a pas à revenir dessus. C'est simplement qu'il faut que, tout simplement, on retrouve des réflexes qui sont de revenir en cœur de ville, de faire de tout simplement utiliser les commerces de proximité, de participer aux animations, d'être présent dans les associations, d'utiliser les équipements sportifs. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle la vie du village pour, finalement, une grosse ville.
Donc c'est là-dessus que votre action va porter pendant ces 6 années.
Tout à fait. Alors, vous le savez, la première année, généralement, sur un mandat, on vote le budget de l'équipe précédente. Donc là, notre...
C'est le fait accompli.
Voilà, le fait accompli. Donc là, nous avions construit pendant la campagne, un programme avec les coursanais, et puis nous sommes en train de le mettre en place, et donc on a relancé des festivités. Là, on a les féeries de Noël qui arrivent sur Coursan, avec un manège, un spectacle pour le 24, des déambulations, une ferme tactile. On relance des festivités culturelles qui sont un festival de jazz, festival de théâtre amateur. On travaille aussi sur de gros investissements pour des salles municipales qui n'avaient pas vu un coup de peinture depuis une trentaine d'années. On est en train de refaire complètement des salles municipales. On a doublé les investissements sur les écoles. On travaille sur des terrains de foot synthétique. On travaille sur des parcours de santé. Voilà. Et puis après, tout ce qui est travaux de voirie classique, travail sur le fleurissement, la propreté urbaine. On a de nombreux fers au feu et voilà, on tâchera de tout simplement de faire en sorte de respecter les engagements qu'ils nous ont fait lire et d'être à l'écoute des
consommateurs. Mais si je comprends bien, il y a une volonté un peu de relooking là quand même, de redonner un visage un peu ou même beaucoup différent.
À partir du moment où des gens ont choisi l'alternance en politique, il est légitime qu'on propose quelque chose de différent. Et effectivement, c'est pas uniquement du relooking, c'est vraiment du travail de fond sur l'ensemble des domaines qui sont ceux de la commune. On parlera tout à l'heure des domaines peut-être du Grand Narbonne. Effectivement, dans tout ce qui est nos domaines de compétences, on veut être très présent et avoir des actions très fortes.
Oui. Alors, sur le plan économique, même si maintenant l'économie, c'est la compétence de l'agglo, vous avez une zone économique sur la commune de Coursan.
Tout à fait. La zone de la Condamine, qui est effectivement de compétence de l'agglomération, mais sur lequel nous avons un œil particulier. Effectivement, là, je travaille en collaboration étroite avec le Grand Narbonne pour ce qui est du développement de la zone, de l'accueil de nouveaux artisans. On est particulièrement sensible, tout simplement, à l'installation d'artisans et commerçants, parce que c'est vraiment le vivier économique en termes de, notamment au niveau de l'emploi. Et ça, on y est particulièrement attaché, même si c'est pas notre domaine de compétence.
Voilà. Comment a évolué la viticulture au cours de ces 20 ou 30 dernières années pour Coursan ? Parce que jadis, la réputation de la plaine de Coursan, c'était les gros rendements. Mais c'était il y a 20 ou 30 ans.
Coursan, voilà. Cuxac.
Oui, voilà.
La question des rendements et la question de la qualité, c'est...
Ah, ça a beaucoup changé.
La cave de Coursan, Coursan, Armissan, Béziers, est la plus grosse cave du département. Elle est reconnue pour la qualité de ses vins. Régulièrement, les vins qui sont produits par les viticulteurs reçoivent des médailles. Là, le vin nouveau, le rouge en vin nouveau sur Coursan a été élu meilleur vin primeur de l'Aude.
Bon, voilà. Pas encore une fête des vendanges comme celle de Narbonne.
Non, peut-être un projet. Mais par contre, il y avait ce qu'on appelait la fête à la comporte à Coursan, qui est une vieille tradition.
Vous devriez la relancer, parce qu'effectivement, ça permettrait de compenser un peu cette fête des vendanges ratée sur Narbonne.
Édouard Rocher, vous parliez de Béziers, donc vous avez fait dans l'interdépartementalité.
Alors, ça c'est la cave coopérative.
Oui, c'est une décision, mais
tout à fait. Qui travaille avec Béziers, et on a effectivement des viticulteurs qui sont sur l'ensemble du département et qui sont effectivement sur le département limitrophe.
Ce qui va d'ailleurs, je saute sur l'occasion, là, ce qui va dans le sens de ce que j'ai longtemps promu quand j'étais aux affaires à la région et ensuite sur le Narbonnais, ce qui va dans le sens d'une organisation territoriale qui prend en compte aussi le Biterrois dans le cadre de ce que j'avais appelé à l'époque le cœur de Languedoc, qui est maintenant qui est le cœur du Languedoc-Roussillon, qui est association composée des différentes intercommunalités de la zone. Donc, d'ailleurs, entre parenthèses, au-delà de l'aspect viticole et la coopération entre les caves coopératives, il y a quand même des sites comme celui de Nissan-Serune qui, à terme, devrait pouvoir aussi, dans une politique touristique un peu plus, je dirais, interdépartementale, et dans ce cadre de cœur du Languedoc-Roussillon, pouvoir être harmonisé, car effectivement, il y a de la ressource, et c'est quand même assez dommage, par exemple, que Coursan ne bénéficie pas aussi de retomber de ce site exceptionnel qui est à côté de...
Alors, c'est peut-être une piste à explorer pour Édouard Rocher, qui nous en reparlera peut-être prochainement. Alors, vous êtes également un des vice-présidents du Grand Narbonne, donc chargé plus particulièrement des transports.
Oui.
C'est exact.
Tout à fait. Oui. Transport et intermodalité.
Alors intermodalité, voilà, c'est un mot un peu technocratique que tout le monde ne comprend pas tellement. Explication.
L'intermodalité, c'est tout simplement la capacité à mixer les différents systèmes de déplacement. Aujourd'hui, on sait ce qu'est le bus. L'intermodalité, c'est de dire comment je vais à Narbonne ou sur le reste du territoire en utilisant peut-être ma voiture dans un premier temps, puis la déposer à un parking relais, prendre une navette ou tout simplement avoir un parc à vélo dans lequel je vais prendre un vélo et pouvoir me déplacer après sur le territoire. Voilà, l'intermodalité, c'est la capacité à associer les différents modes de transport avec quand même une vision qui est de dire de laisser un petit peu moins de place à la voiture et puis un peu plus de place
au transport collectif.
Voilà, transport notamment. Collectif, au vélo, à la marche à pied.
Au transport dit doux, ce que l'on
tout
appelle
à fait,
doux.
Tout à fait.
Et quelles sont les actions donc les projets, mais les actions engagées par vous-même en tant que vice-président et par l'agglomération concernant cette intermodalité, cette addition de transports différents.
Alors au niveau de l'intermodalité, il y a deux parties. Il y a la partie transport aujourd'hui. Vous l'avez dit, on a associé de nouvelles communes qui ont été intégrées et sur lesquelles il y a une nécessité de revenir sur ce qu'on appelle une délégation de service public pour tout ce qui est transport en commun. Les transports en commun aujourd'hui sont pris essentiellement par les scolaires et le gros travail qui est actuellement en cours, c'est d'essayer à la fois d'améliorer le système de transport, la qualité, les rotations, la rapidité, à la fois pour ceux qui l'utilisent, notamment les scolaires. Et ensuite, tout simplement, de le rendre beaucoup plus attractif, tout simplement parce que il y a une nécessité aussi que les actifs prennent aussi une volonté, que les actrices prennent aussi le bus, les navettes à l'intérieur de la ville. Voilà, ça participe une partie à l'intermodalité. Et puis après, il y a des projets qui sont des projets de parcs relais, des projets de pistes cyclables, un ensemble de domaines qui doit être travaillé à travers le plan de déplacement urbain qui se fait cette fois-ci en partenariat avec la ville, puisqu'on a une partie de la compétence qui est les transports. Et par contre, pour tout ce qui est aménagement routier, ça, c'est de la compétence de la ville. Après, on peut associer, les deux collectivités peuvent s'associer pour travailler sur un projet intéressant, d'envergure.
Oui, ce qui ne va pas sans quelques problèmes. On en a déjà évoqué certains dans cette émission. Il est certain, j'en prends le pari, que nous en évoquerons d'autres encore une autre fois.
En matière de covoiturage, par exemple.
Et d'autres fois.
Est-ce qu'il y a une réflexion sur le sujet? Parce que le nombre de personnes qui utilisent leur voiture pour venir des villages, en fait, sur Narbonne, par notre avis, est très important. Et on pourrait imaginer que ça organise, en fait, au niveau du Grand Narbonne.
Est-ce que ça fonctionne déjà d'une façon ou d'une autre?
Alors, ça fonctionne déjà effectivement par l'intermédiaire de plateformes qui ne sont pas liées forcément à l'agglomération. Après, est-ce qu'il est nécessaire de rajouter une couche en disant je vais... Voilà, pour parler simplement, il y a des systèmes qui existent comme Blablacar ou comme d'autres choses qui sont faites dans les entreprises, notamment pour avoir des déplacements communs. Est-ce qu'il est nécessaire que l'agglomération rajoute une couche en proposant ce type de système?
En posant la question, vous apportez la réponse d'une certaine façon pour éviter qu'il y ait trop de gens qui s'occupent de tout à la fois.
Mais néanmoins, que l'agglomération, la ville réfléchissent à un parking relais sur lequel c'est un
aux
centre.
Équipements,
voilà,
oui.
Les équipements en disant, mais voilà, vous voulez faire du covoiturage à cet endroit-là, vous pourrez
exactement
laisser votre véhicule, il est en sécurité et vous pourrez à ce moment-là prendre la voiture avec quelqu'un d'autre pour faire du covoiturage. C'est là où intervient effectivement l'agglomération.
Bien sûr.
Mmh. Pour conclure cette interview, Vélois Rocher, je le disais tout à l'heure, vous êtes PRG, donc aux radicaux de gauche. On le sait, c'est un parti qui aujourd'hui est l'allié du Parti socialiste, dans l'Aude et au niveau national également. Parfois, les gens ont du mal à faire le distinguo, justement, parce que vous êtes allié régulièrement. Alors aujourd'hui, dans l'Aude, le PRG s'est renforcé récemment, mais on peut se poser la question de l'efficacité. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aurait éventuellement envie de rentrer au PRG, plutôt qu'au Parti socialiste, qui est un grand parti efficace, le PRG étant plus petit, quel est le distinguo, qu'est-ce que vous diriez pour vendre en quelque sorte le parti? Qu'est-ce qui vous situe, qu'est-ce qui vous différencie ?
Alors, je parlerai pas des autres en termes de différence. Je dirais ce que nous sommes. Nous sommes un parti de centre-gauche. Nous sommes profondément attachés à la fois à tout ce qui fait la gauche, la solidarité, les valeurs républicaines, mais également, nous sommes particulièrement attachés à ce qui fait une des spécificités du Parti radical de gauche, c'est la primauté de l'individu, c'est-à-dire en matière de liberté individuelle, de droit à disposer de son corps, de mourir dans la dignité. Voilà, ça, c'est ce qu'on revendique, c'est cette identité. Et puis également, une spécificité qui est le lien avec le monde de l'entreprise. Nous sommes une gauche moderne dans ce sens-là, c'est-à-dire au niveau économique, nous prônons l'excellence économique. Et c'est pour ça qu'on se situe effectivement plutôt au centre-gauche. Et que moi, je suis chef d'entreprise, par exemple. Je me reconnais dans ces valeurs-là. Et puis c'est un parti qui travaille un petit peu différemment dans ses instances, dans son mode d'organisation, où on fait la place tout simplement aux gens qui ont envie de s'investir. On y retrouve tout ce qui fait la société en termes de catégories socio-professionnelles, de diversité. Et puis aussi on laisse des responsabilités aux jeunes. Voilà, on a une conseillère départementale ici, PRG, qui a moins de 40 ans, une ministre, bon, Sylvia Pinel.
Vous-même qui faites
partie
de la classe nouvelle.
Moi, j'ai 42 ans. Voilà. Et donc, on laisse. Et puis, on accueille aussi tous ceux qui ont de la valeur et qui veulent venir avec nous.
Un tout dernier point, là, vous l'évoquez à l'instant. Votre différence sur le plan de l'entreprise, du regard sur l'entreprise, est-ce que c'est le fait que vous avez toujours refusé toute notion de marxisme et de lutte des classes ?
Ah, tout à fait. Tout à fait.
Donc c'est une grande différence.
Ah oui, c'est
PS.
L'une des grandes différences.
Ouais. C'est la tradition typiquement républicaine, qui d'ailleurs fait que les radicaux de gauche entretiennent toujours des relations avec leurs cousins valoisiens dits de droite.
Dits de droite. Ouais. C'est là-dessus que nous conclurons. Merci Édouard Rocher.
Merci de m'avoir reçu.
Nous recevrons la prochaine fois un autre maire d'une des communes de la ceinture narbonnaise. Il s'agit du maire de Montredon, Éric Mellet, qui viendra, qui lui n'est pas radical de gauche, mais qui viendra nous parler de ses responsabilité communale et également de sa vice-présidence de l'agglomération du Grand Narbonne. Merci à vous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci beaucoup. Au revoir.